Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Et voilà, midi 11 sur la Clé des Ondes, on a raté notre départ d'émission, mais on est bien là pour le plat de résistance. On va parler des élections européennes ce midi, élections qui ont lieu le 9 juin prochain. Et on est avec deux candidats à candidates, Jonathan Salomon de la liste Changer l'Europe et Selma Labib du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, qu'on va entendre dans une poignée de minutes, juste après nos brèves, notre journal de la Clé des Ondes. Et on commence avec le président et imam de la mosquée de Pessac, qui est toujours menacé d'expulsion par la préfecture de la Gironde. Vendredi dernier, Abdourahmane Ridouane était convoqué au tribunal devant la commission départementale d'expulsion des étrangers. Plusieurs centaines de soutiens étaient présents, personnes de la mosquée, du comité Action Palestine, dans lequel il est très actif, et aussi d'organisations de gauche. La préfecture juge que l'attitude d'Abdourahmane Ridouane porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État et qu'elle est constitutive d'actes de provocation à la haine envers la communauté juive. Abdourahmane Ridouane a pu s'en défendre devant cette commission. On écoute tout de suite son avocat, Stéphane Guez-Guez, qui répondait à la Clé des Ondes à la sortie du tribunal ce vendredi.
La préfecture a soumis auprès de la commission d'expulsion, qui est une commission composée à la fois de magistrats de l'ordre judiciaire et d'un magistrat du tribunal administratif, un projet d'expulsion d'Abdelrahman. Parce que la préfecture estime que les agissements d'Abdelrahman s'inscrivent dans de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et dans l'incitation à la haine à l'encontre de la communauté juive en France. Pour moi, ces accusations-là, elles sont gravissimes. Et ce qui frappe, c'est le contraste entre ces accusations-là d'une particulière importance et la réalité du dossier, puisque pour parler d'Abdelrahman, il est installé en France depuis le début des années 90. Vous n'avez jamais eu de poursuite judiciaire à son encontre sur ces faits-là. Il n'a jamais été placé en garde à vue. Il n'y a jamais eu de condamnation le visant directement. Et c'est assez incroyable d'entendre dire qu'effectivement, il faut éloigner cet individu parce qu'il représenterait une menace à l'ordre public, alors qu'il a un casier judiciaire vierge que beaucoup de politiques n'ont pas. Et c'est le premier point. Le second point, c'est qu'en 2022, lorsque la préfecture de Gironde avait voulu faire fermer la mosquée de Pessac, elle avait utilisé très exactement les mêmes éléments matériels et les mêmes accusations. Et devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant le Conseil d'État, ça n'avait pas tenu. Ça n'avait pas tenu pour deux raisons. La première, c'est que ces éléments-là, pour peu qu'ils aient pu paraître provoquants, ont été supprimés par l'association et par Abdelrahman dans une volonté d'apaisement. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que la justice administrative avait considéré que ces accusations-là ne tenaient pas et ne pouvaient pas constituer effectivement des incitations à la commission d'actes de terrorisme. Maintenant, on sait que nous sommes dans un contexte où Gérald Darmanin l'a annoncé, il faut qu'il y ait du chiffre, il faut qu'il y ait des imams expulsés. On remarque que contrairement à beaucoup d'autres dossiers, Abdelrahman aujourd'hui bénéficie d'un soutien populaire. Et ce contraste que j'ai fait, que l'on ne peut que constater entre les accusations graves et ces gens qui s'affichent à visage découvert pour soutenir Abdelrahman, démontre bien que dans la vraie vie, dans la réalité, il est très loin de ce dont on l'accuse. Voilà. La commission est censée rendre un avis dans les prochains jours. Il n'y a pas de date arrêtée. Mais en fait, qu'importe l'avis qui sera rendu par la commission, puisque la préfecture peut passer outre. Elle peut décider, malgré un avis défavorable à l'expulsion, de prononcer celle-ci. Et on espère compter, comme on l'a vu aujourd'hui, sur une forte mobilisation lorsque le débat se placera sur la question de l'expulsion ou pas d'Abdelrahman.
Voilà, Stéphane Guezguez, l'avocat d'Abdourahmane Ridouane. Vous avez entendu, il y avait beaucoup de gens et d'ambiance lors de ce passage au tribunal. On continuera bien sûr à en parler. En attendant, Abdourahmane Ridouane, il est assigné à résidence, ce qui n'est pas le cas de plein de personnes menacées d'expulsion aujourd'hui en France et qui sont, elles et eux surtout, enfermées dans des centres de rétention administrative. C'est contre cela qu'avait lieu une journée de mobilisation samedi dernier, notamment à Bordeaux, dans l'agglomération à Senon, devant l'hôtel de ville. On en parlait la semaine dernière dans le plat de résistance mercredi dernier. Les manifestants qui étaient présents ont dénoncé non seulement les centres de rétention administrative, mais aussi les locaux de rétention administrative, dont un est installé à Senon. On écoute Christine Hérault, élue municipale d'opposition à Senon, membre du NPA, à ce sujet.
Je vais dire quelques mots pour le NPA. Je suis, moi, élue municipale, NPA, au conseil municipal de Senon, donc entièrement partie prenante, évidemment, de la lutte contre la construction du centre de rétention administrative de Mérignac, mais contre tous les centres de rétention administrative, contre les lieux de rétention administrative, dont un eh bien, a été créé en 2021 dans le centre des CRS de ce nom et devant lequel nous étions jeudi pour la conférence de presse. Cela fait donc depuis 2021 que ce lieu de rétention administrative, zone de non-droit, hein, totalement opaque, puisque aucune association n'y met les pieds, pas d'avocat, il n'y a pas de statistiques sur les personnes qui y sont enfermées. C'est donc un lieu qui a été créé en 2021, dont la préfecture a expliqué à l'époque que ce serait un centre pérenne et qui pouvait accueillir donc des hommes, des femmes et des enfants. Et des hommes, des femmes et des enfants y sont passés. Nous en avons eu des témoignages. D'abord des conditions d'accueil absolument déplorables et qui sont expulsés puisque au QTF, donc sans rester plus de 48 heures. Voilà, donc cette lutte-là, nous l'avons menée au sein du conseil municipal de Senon en 2022 avec donc Fabrice Delaune, ici présent de la LFI. Nous avions présenté une motion contre la construction du centre de rétention administrative qui, à l'époque, donc était prévu d'être construit à Pessac, mais contre tous les centres de rétention et lieux de rétention administrative. Le maire avait demandé à sa majorité municipale de ne pas participer à ce vote parce qu'il a affirmé à ce moment-là qu'il était pour l'enfermement et la détention, alors que ce n'est même pas, c'est pas le terme assimilant plus ou moins les migrants et les délinquants, en nous citant quelques exemples sur ce nom. Voilà, donc nous luttons bien sûr contre tous ces centres de rétention administrative, contre les frontières, pour la libre circulation de l'ensemble des travailleurs qui sont migrants, qui sont nos frères de classe. Les travailleurs n'ont pas de patrie.
Voilà, c'était Christine Hérault au rassemblement contre les CRA samedi dernier. À ce nom, un dernier mot pour dire que la lutte anti-LGV prend de l'envergure. Le collectif LGV Non Merci a annoncé hier la tenue d'un grand rassemblement, soutenu et co-organisé avec les Soulèvements de la Terre en Gironde. Il sera intitulé « Freinage d'urgence » ce week-end, qui se veut haut en couleur, écrivent les organisateurs, et qui aura lieu les 12 et 13 octobre prochains. On rappelle que le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, il vise à relier Bordeaux à Toulouse et Dax par 327 km de lignes nouvelles au prix de 14 milliards d'euros et 4 800 hectares de terres artificialisées. Voilà, donc grand rendez-vous les 12 et 13 octobre prochains. Midi 20 sur la Clé des Ondes, et c'est le plat de résistance, toujours jusqu'à 13h. Alors les élections européennes, élections des députés au Parlement européen, c'est ce dimanche 9 juin. On a reçu des candidats écolos et insoumis jeudi dernier sur notre antenne. L'émission Acétone, elle, reçoit depuis plusieurs semaines plein de partis de gauche. On vous invite à réécouter ça en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Et nous, aujourd'hui, on donne la parole à deux listes de gauche qui sont moins médiatisées que d'autres dans cette élection où, je le rappelle, il y a 38 listes en tout, dont une quinzaine qu'on peut placer plus ou moins à gauche. On est donc par téléphone d'abord avec Selma Labib. Salut Selma. Elle a coupé son micro, elle va nous revenir avec nous. En tout cas, Selma, elle est conductrice de bus en région parisienne et membre du NPA révolutionnaire, dont elle est la tête de liste pour ces élections européennes. Et puis, on est en studio avec Jonathan Salomon. Bonjour, Jonathan.
Bonjour.
Et toi, tu es président de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de Gironde. Par ailleurs, tu travailles en tant qu'animateur en mission locale dans le Libournais et tu es 9e place sur la liste Changer l'Europe, qui est issue, cette liste, du rassemblement entre le parti Nouvelle Donne, le parti de Pierre Larouturou, qui est lui déjà député européen oui. depuis quelques années, et de Allons Enfants, qui est un parti politique. Peut-être tu peux nous en dire deux mots de Allons Enfants.
Allons Enfants, donc c'est un parti de politique qui a été créé en 2014 et qui a pour objectif de présenter que des candidatures de moins de 30 ans. Voilà, pour montrer justement que les jeunes peuvent s'impliquer en politique.
Très bien, et donc c'est ton cas d'avoir moins de 30 ans.
C'est ça, mais moi je suis ni à Nouvelle Donne, ni à Allons Enfants. Je fais partie des candidatures de la société civile sur cette liste.
Très bien. Selma, tu es avec nous ? Non, toujours pas. Alors on va peut-être essayer de la rejoindre autrement. Alors, cette élection européenne, je voulais commencer par dire que personnellement même, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser. Ça a été compliqué, y compris de préparer cette émission. Alors, on l'a fait quand même parce que ça reste un moment politique important, cette élection. Mais on a l'impression qu'on est assez loin de l'idée des élections comme moment de débat démocratique, d'émulation collective, de réflexion. On n'a pas vu de questions politiques vraiment centrales émerger. Et à part peut-être la question de la place prise par l'extrême droite, du manque d'union à gauche, ou alors de celle de l'immigration qui est portée par l'extrême droite. On a l'impression d'être un peu au degré zéro de discussion sur l'Europe dans la société et degré zéro de discussion aussi sur les questions dont le Parlement aura à traiter pendant les années à venir. Est-ce que j'avais envie de commencer par ça et vous demander un peu votre avis là-dessus. Toi, Jonathan, est-ce que tu partages ce sentiment-là?
Mais totalement. Enfin, quand on voit déjà que l'ARCOM France Télévisions préfère ne pas respecter les demandes de les consignes de l'ARCOM sur les diffusions des clips de campagne, au lieu de diffuser les clips des petites listes aux heures de grand passage, ils préfèrent diffuser Bardella et Valérie Ayet. Pierre Larouturou a fait une lettre à l'ARCOM et l'ARCOM nous a répondu en mode on prend ça en main. Voilà, on fait une requête à France Télévisions, mais c'était déjà trop tard. Enfin, voilà.
Et effectivement, il y a eu cette requête là auprès de l'ARCOM. On attend de voir ce que ça va donner, mais bon, dans tous les cas, il est un peu tard pour faire bouger
c'est
les choses.
Ça. Mais après, nous, ce qui est aussi révoltant, c'est de voir qu'en fait, toutes les petites listes, enfin majoritairement les petites listes, ne sont pas invitées sur des débats où on voit que les gros partis qui sont médiatisés. Et nous, c'est ce qu'on a dit hier devant l'ARCOM, justement, que voilà, on demande aussi que nous, les petites listes, on soit médiatisés et qu'en fait, il y ait vraiment une vraie équité.
Selma Labib, je t'entends.
Oui,
tu es là. Oui, oui, salut Selma.
Du coup, j'ai raté une partie de la question.
Je vais commencer par te demander quand même de redire un peu ce que c'est le NPA révolutionnaire, puisqu'on était resté un peu sur cette scission au sein du NPA. Maintenant, il y a deux noms, deux collectifs qui émergent, le NPA révolutionnaire et le NPA anticapitaliste, c'est ça? Tu peux nous préciser un peu?
Voilà. Ouais, bah exactement. Du coup, il y a deux NPA. Donc, nous, c'est le NPA révolutionnaire. C'est celui qui se présente ici aux élections européennes avec donc comme tête de liste, moi, Selma Labib, qui suis conductrice de bus en région parisienne, et Gaëlle Quirante, qui est un camarade postier, qui a été licencié, mais qui continue à militer, à être syndicaliste à la Poste. Voilà, donc on garde le cap d'un NPA révolutionnaire affirme voilà des choses comme l'internationalisme et la nécessité de lutter contre le capitalisme quoi dans ce système. On marche sur nos deux jambes, donc bien sûr que on est pour toutes les unités d'action Mais on pense que dans les élections, on a des choses bien différentes à dire que des organisations institutionnelles, voilà, de la gauche institutionnelle. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on continue à se présenter, notamment à ces élections européennes.
Mmh. On reviendra sur tout ça. Donc, ma question portait sur un peu le climat, le contexte de cette élection ou pseudo-élection. On a l'impression que ça prend pas vraiment et que, en fait, il y a pas de, les sujets sont pas vraiment discutés dans la société. Personne n'en parle. Enfin, je dirais pas que tout le monde s'en fout. Mais en tout cas, il y a quand même un manque d'intérêt et donc d'émulation collective et politique autour de ces élections. Selma, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Je pense que oui, c'est vrai qu'il y a un désintérêt de façon plus générale, de toute façon, concernant les élections, mais aussi parce que ce n'est pas forcément nos préoccupations, celles qu'on vit quotidiennement, qui sont mises en avant, ou en tout cas pas de la façon dont nous on voudrait. Enfin, en ce moment, l'actualité, c'est par exemple les plans de licenciement. C'est 30 000 à 60 000 travailleurs qui sont quand même concernés. C'est nos salaires, mais c'est aussi ce qui se passe en Kanaky, ce qui se passe le génocide en Palestine. Et donc, en tout cas, nous, c'est sur ça qu'on fait campagne. Et là-dessus, en fait, quand on fait campagne sur le terrain, il y a un intérêt après que beaucoup pensent que c'est pas par les institutions qu'on va répondre aux problèmes, aux urgences auxquelles on fait face. Je pense que ils ont raison, et quand on voit, en fait, c'est quand même ceux qui sont dans tous ces parlements et dans tout, qu'ils soient européens, à l'Assemblée nationale, nous on pense qu'ils nous représentent pas, voilà, c'est des politiques professionnelles. Nous on se démarre complètement de ça, voilà, on est pour que ce soit nos préoccupations, et donc c'est pour ça qu'on présente une liste de travailleurs, travailleuses, de jeunes, de 80 travailleurs, travailleuses et jeunes.
Et alors, justement, sur cette actualité-là qui est très riche et dont tu parles, certains partis de gauche qui parlent de ces sujets ont pu être critiqués comme si, en fait, ils ne parlaient pas d'Europe et qu'ils profitaient d'autres sujets d'actualité. Toi, Selma, et vous, NPA Révolutionnaire, vous pensez que c'est important que ces sujets-là, ils aient une place dans la campagne ?
Bah, franchement, quand on voit le rôle enfin, de la France dans le génocide en Palestine, le soutien, la complicité de Macron, d'abord, c'est bien sûr un sujet qui nous concerne. Je pense qu'il nous concerne directement, et c'est pour ça que on est mobilisé dans la rue, qu'on y est à chaque fois que c'est possible pour dénoncer la complicité de Macron. Quand on voit que Netanyahou, il est invité sur LCI, quand on voit tout ça, d'abord, bien sûr, quand on sait que la France, c'est aussi la politique coloniale en Nouvelle-Calédonie, bien sûr que ça nous concerne. Et nous, en tout cas, notre campagne, on la met pas uniquement à l'échelle de l'Europe. Je pense que les problèmes aujourd'hui, ils se posent à une toute autre échelle. Donc, il faut qu'on réponde à ce problème-là à une toute autre échelle aussi. C'est pour ça qu'on met en avant notre internationalisme.
Jonathan Salomon, pour Changer l'Europe, comment vous voyez cette actualité-là et qu'est-ce que vous en faites dans le cadre de cette campagne ?
Mais nous, déjà, sur ce qui se passe actuellement en Palestine, on a quand même la chance d'avoir le seul député français qui est à la fois dans la Commission européenne pour la paix en Palestine et à la fois dans la paix en Israël. Et comme il dit, si on ne travaille pas avec les deux, on n'aura jamais la paix dans les deux pays. Aujourd'hui, nous, on se sert aussi un petit peu de cette lutte d'actualité, hein, parce que quand on voit aujourd'hui déjà les prix qui sont trop élevés, dans notre programme, on veut comme en Espagne que partout en Europe on ait la TVA à 0%. Enfin voilà, on est aussi acteur de justement de cette actualité là.
Parce que la TVA, c'est un impôt injuste, c'est ça, qui s'applique à tout le monde de la même manière.
Mais c'est surtout que oui, et surtout que sur les produits de première nécessité, ça permettrait de baisser les prix. Et quand on voit qu'aujourd'hui, quand on est au SMIC, aujourd'hui on ne vit plus, on survit en fait aujourd'hui.
Selma, on parlait justement avec Jonathan de la question des médias, avec les petites listes qui sont bien moins représentées dans les médias. Comment ça se passe pour vous, NPA Révolutionnaire ? C'est compliqué, vous aussi, de vous faire une place dans les médias ?
Bah oui, bien sûr, c'est compliqué pour toutes ces, comme ils les appellent, hein, petites listes, petits candidats. Déjà, ça donne quand même une idée. Hein. Ce qu'on dit, c'est que franchement, entre notre existence sur le terrain et notre existence dans les médias, mais il y a un monde, quoi. Et bien sûr que ça, on dénonce. Je veux dire, l'ARCOM n'a aucune raison, par exemple, de ne pas nous faire intervenir dans le débat des petites listes de ce soir, au vu de ce que disent les sondages, de notre existence. Je veux dire, on est de toutes les luttes. On est de toutes les luttes, de toutes les manifestations. Moi-même, j'étais en grève il n'y a pas si longtemps pour des augmentations de salaire. Enfin, je veux dire, il y a bien sûr une volonté de. Enfin, quand on voit que les que les clips effectivement du Rassemblement National ou du parti de Macron et de Ayer est publié 20 fois plus que le nôtre. Bon, évidemment, après, est-ce que ça nous étonne? Pas tellement. Je veux dire, bon, c'est les représentants de la bourgeoisie. Bien sûr, ils invitent ceux que ça arrange et ceux dont ils n'ont pas trop le choix d'inviter. Et nous, bon, voilà. Mais en tout cas, on est présent sur le terrain avant tout. C'est quand même notre priorité. Mais bien sûr qu'il y a une injustice voilà, qui est extrêmement importante par rapport à cette question-là. Et d'ailleurs, merci à la Clé des Ondes de nous avoir invités pour nous permettre aussi de nous exprimer, parce que ce qu'on a à dire est tout aussi important, si ce n'est plus, que ceux des grands candidats soi-disant qui bon voilà.
Et alors justement, pour parler de ce qui se passe sur le terrain, comment se passe cette campagne pour vous sur le terrain, Selma, avec le NPA révolutionnaire?
Ben nous, on a fait beaucoup de réunions publiques, de meetings. La semaine dernière, on était à Toulouse, à Lyon, on est allé au Mans, à Angers. Enfin, on a fait vraiment un beau tour pour aller voir tous les militants. Chaque réunion était quand même vraiment bien. Les camarades, tout le monde est motivé à faire cette campagne parce qu'on a vraiment des choses à dire qui sont importantes. Donc, on est sur le terrain. On fait tous les collages aussi des panneaux parce que on n'est pas financé par le gouvernement. On n'est pas financé par le CAC 40. Donc, on s'en sort par nous-mêmes. Mais on s'en sort bien et on ne regrette pas du tout de faire cette campagne. Au contraire, et sur les marchés, devant les entreprises, quand on discute, ce qu'on pense est quand même partagé largement sur les salaires qui sont trop bas, sur les réformes chômage de Attal qui vont encore nous appauvrir. Enfin, sur tout ça, on reçoit quand même une sympathie et ça, c'est encourageant.
Peut-être un mot maintenant sur le sens de cette candidature. Comme le nom de ton parti l'indique, vous êtes révolutionnaire, donc j'imagine que vous attendez assez peu des urnes et des élections. C'est quoi l'intérêt à partir de là d'être présent lors de ce moment-là et de faire campagne, Selma?
En fait, effectivement, on ne pense pas qu'on va changer les choses par les institutions. On pense que c'est nous, les travailleurs et les travailleuses, les jeunes, qui pouvons imposer quelque chose par nos luttes, par nos grèves, par nos propres méthodes et par nos propres forces. Voilà, on ne pense pas que ce soit dans les institutions que les choses elles vont changer, mais pour autant, on pense que c'est important de s'y présenter parce que on ne voit pas pour quelles raisons on les laisserait discuter de leurs petites affaires, des grandes stratégies géopolitiques, sans que nous, les travailleurs et les travailleuses, on ait notre mot à dire là-dedans. Donc, on ne fait pas une campagne de témoignage. Après, les résultats, ils seront ce qu'ils seront et on verra par rapport à ça. Mais on ne fait pas une campagne de témoignage et on pense que oui, il y a un intérêt à ce qu'on aille leur dire leurs quatre vérités, quoi. Là où on pourra et jusqu'au Parlement européen si ça se posait, quoi. Alors là, oui, bien sûr, ça ne va pas forcément se poser, mais c'est ça le sens de notre campagne et de nous dire que, jusque dans les urnes, on peut dénoncer le capitalisme, dénoncer l'impérialisme, dire l'urgence d'avoir pas un revenu, pas un salaire en dessous de 2000 euros, l'urgence de l'ouverture des frontières, toutes ces urgences-là, en fait, on pense qu'il faut qu'on le dise jusque dans les urnes. En fait, c'est un avertissement au patronat, au gouvernement, pour dire qu'on ne pense pas que ce soit par là que les choses elles vont changer, mais qu'on est convaincus de notre force à nous de pouvoir changer les choses.
Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il me semble au début de l'existence du NPA, il y avait eu des élus, notamment un élu au Parlement européen avec Alain Krivine, début des années 2010.
Exactement.
Jonathan Salomon, peut-être un peu même question sur comment se passe cette campagne pour vous avec Changer l'Europe.
Et nous, cette campagne, on a fait plusieurs réunions café citoyen, parce que nous, on aime bien réunir les citoyens et travailler avec les citoyens, parce que notre programme, il part aussi de deux. On a fait plusieurs cafés citoyens partout en France. On va tracter tous les week-ends, toute la semaine, on est sur les marchés, à la rencontre des gens. Où les gens, ils apprécient aussi notre initiative. Ils trouvent que c'est aussi bien que nous, on soit là, qu'il y ait d'autres personnes, que des partis traditionnels qui soient sur le terrain. On a aussi fait à Paris une réunion publique où on a permis aux gens de participer à cette réunion publique en disant ce qu'eux, ils voulaient pour l'Europe. Et ils nous ont dit, on veut une Europe plus humaniste, on veut une Europe plus solidaire, une Europe sociale. Enfin voilà, on veut permettre aux personnes qui nous soutiennent de travailler avec nous et de faire campagne avec nous. Et pareil, on n'a pas les moyens d'aller de payer 500 000 euros pour afficher partout sur qu'une entreprise affiche partout, et c'est nous.
Ce qui est le cas de beaucoup d'autres parties.
De beaucoup d'autres parties, hein, dont la LFI entre autres et le PS. Enfin voilà, et nous on colle nous-mêmes. On parcourt les routes du territoire et on colle nos affiches.
Ça veut dire que c'est beaucoup d'énergie militante pour organiser tout ça.
C'est ça, mais c'est aussi, ça en vaut le coup, parce que voilà, c'est aussi notre avenir qui va se jouer dimanche prochain. Si on ne se monte pas, en fait, les gens ne nous connaîtront pas, parce que les médias ne nous montrent pas. Donc c'est une manière pour nous de nous montrer, d'être sur le terrain.
Sur votre liste, il y a un eurodéputé sortant, au moins peut-être d'autres, je n'ai pas vérifié, mais Pierre Larouturou, peut-être quel impact vous pouvez retirer de cette place d'eurodéputé qu'il a pu occuper. À quoi ça sert d'être élu dans un Parlement européen, et qu'est-ce que lui, Pierre Larouturou, a pu vous dire peut-être de ce à quoi il était utile à cet endroit-là, Jonathan?
Je pense que ce qu'on peut retirer, c'est quand même que c'est quand même important aujourd'hui. Enfin, un eurodéputé, c'est quand même, c'est rare. Enfin, on a besoin de beaucoup d'eurodéputés pour passer des lois. Dernièrement, je discutais avec lui. Il nous disait qu'en fait, au Parlement européen, ça se joue des fois à un député près pour le passage d'une loi. Et voilà, donc c'est hyper important qu'aujourd'hui on ne laisse pas le passage de l'extrême droite. C'est ce que nous disait Pierre. C'est, faut pas vraiment laisser passer l'extrême droite, parce qu'il y a beaucoup de lois pour le climat, pour le social, qui malheureusement ne pourront plus passer, parce qu'au Parlement c'est à un député près souvent.
Dans le programme de Changer l'Europe, alors tu disais, il y a avec cette alliance entre Nouvelle Donne et Allons Enfants une insistance et plein de mesures, de propositions pour la jeunesse. Peut-être il y en a deux dont tu voulais parler plus précisément. Il y en a une qui concerne les jeunes, c'est l'allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Peut-être pourquoi ça vous semble important, cette mesure-là, au sein de cette liste, Jonathan?
Déjà, quand on voit que rien qu'en France, les aides pour les jeunes, ils sont diminuées. Il y a actuellement une aide pour l'accès à l'emploi des jeunes qui est distribuée par les missions locales, qui est réduite à plus de 60% de budget. Donc, on perd déjà des aides. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permettrait que chaque jeune soit à mesure égale, que chaque jeune ait de quoi vivre et ne survive plus. Au Danemark, ça existe. Au Danemark, les jeunes ont une allocation d'autonomie pour les 18-25 ans. Et on se dit, il faut le mettre partout en Europe, que permettre que partout en Europe, les jeunes soient au niveau du seuil de pauvreté et ne soient plus en dessous du seuil de pauvreté.
Et puis, il y a une autre mesure importante, c'est celle de la provision de la semaine, enfin, la semaine de 32 heures de travail par semaine, pardon, en 4 jours. Là aussi, c'est une mesure qui est portée, il me semble, par Nouvelle Donne depuis un moment. C'est quoi l'enjeu là-dessus?
C'est une mesure qui est portée beaucoup par Pierre, justement, Larouturou. L'enjeu, c'est pas de faire comme Gabriel Attal le souhaiterait, travailler 35 heures en 4 jours. Nous, ça permet à la fois de travailler en 4 jours en 32 heures, que chacun ait du temps pour soi, d'avoir un jour de plus, à la fois pour soit s'intéresser à l'actualité, mais aussi s'occuper de ses enfants. Ça permettrait aussi de réduire le taux de chômage, parce que du coup, les entreprises devront embaucher. Aujourd'hui, on a en France 500 entreprises qui ont cette semaine-là. Je crois que c'est l'entreprise Pasquier qui, un temps, les salariés, ils faisaient une grève pour ils demandaient tous des augmentations de salaire. Et on leur a proposé, ça vous dit de travailler 32 heures en 4 jours? Et les salariés, ils ont dit oui, ça nous dit. Et derrière, c'est même d'autres collègues à eux qui ont dit, nous aussi, on veut faire pareil. Et du coup, depuis, cette usine et 500 autres usines en France et entreprises sont à cette semaine-là de 4 jours en 32 heures, et on aimerait que partout ça soit comme ça.
Ça veut dire 32 heures sans réduction du salaire, c'est comme la réduction du temps de travail. Quand il y a eu les 35 heures en France, là ce serait une réduction à 32 heures à salaire égal.
C'est ça.
Peut-être revenir sur le nom de cette liste qui s'appelle Changer l'Europe. On voit que les orientations de l'Europe, elles sont très libérales, elles suivent les intérêts capitalistiques, n'ayons pas peur de le dire. Comment est-ce que Changer l'Europe, ça veut dire ça, changer ses orientations et le principe de ce qui fait avancer les gouvernements et les eurodéputés?
Ça veut dire totalement ça, parce que d'autant plus que nous, on propose un référendum où tout le monde, en fait, tous les citoyens vont pouvoir voter pour le climat, voter pour l'emploi, voter pour leur pouvoir d'achat. Nous, on propose justement de réintéresser les citoyens à la politique, mais on propose aussi, à travers notre liste, de revoir aujourd'hui la manière dont sont faites les élections européennes. On propose de baisser le taux de 5% pour pouvoir avoir des eurodéputés, mais on propose plutôt de le diminuer en dessous des 1%. On propose aussi qu'il y a, pour les prochaines, parce que là c'est trop tard, mais qu'il y ait un bulletin unique. Ça permettrait déjà qu'aux petites listes comme nous, comme le NPA révolutionnaire, de plus avoir de bulletins à acheter, mais qu'il y ait juste, que ce soit l'État qui achète juste un seul bulletin. On propose voilà, on veut revoir aussi la démocratie.
Très bien, merci beaucoup Jonathan Salomon. Je rappelle que tu es président de la Jeunesse ouvrière chrétienne de Gironde et 9e sur la liste Changer l'Europe, liste Nouvelle Donne et Allons Enfants pour ces élections européennes. Et merci beaucoup à toi Selma Labib. Je rappelle que toi tu es conductrice de bus en région parisienne et tête de liste pour le NPA révolutionnaire. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.